Le thème de cette rencontre, qui va durer à peu près une heure et quart, à peu près, est le suivant. Deux sensibilités féminines, deux visions du Liban. Alors les sensibilités féminines, elles sont là, Tamiras Fakhouri et Yasmine Klatt, sur qui je reviendrai dans un instant en présentant un peu les éléments factuels des parcours. Quelques réflexions autour de cette association de mots sensibilité féminine. On pourrait partir tout simplement de cela, que sensibilité féminine, c'est un cliché. Là aussi, on retrouve quelque chose qui est un peu récurrent depuis le début de ces entretiens. Il y a Monsieur Larsen qui est... Voilà, est-ce que ça va ?
Ça va mieux.
Mais...
Ça va pas ?
Ça résonne, je change de... Ça va mieux. Bien, derrière cette question de la sensibilité féminine, derrière cette question, derrière ce cliché, il y a cette espèce d'arrière-plan qui est très rebattu et en même temps qui est, je dirais, quelque part du côté d'un certain nombre de conquêtes des droits des femmes, dont un certain nombre d'auteurs, d'écrivaines libanaises ont été des militantes très très actives. On a vu hier Evelyne Akkad, on a entendu des textes d'Etel Adnan hier soir. C'est toute la question des rapports sociaux entre les sexes qui peut être ici évoquée. Et puis on a pu entendre quelque chose qui est peut-être une boutade, mais qui n'en est pas peut-être non plus tout à fait une. On a pu entendre ici, hier après-midi, Hassan Daoud, je crois, dire que les écrivaines libanaises, par leur action, par leur écriture, par les thématiques qu'elles abordent, font parfois paraître les écrivains masculins comme conservateurs. On va laisser cela du côté de la boutade. Je crois que ce n'est pas ça vraiment l'enjeu de ce débat aujourd'hui. Mais c'est intéressant que ça a été formulé, en tout cas hier. De l'autre côté de cette thématique, sur cette rencontre, il y a la question de la vision du Liban, qui est, on le sait, tirée dans un spectre qui est assez large et qui fonctionne à partir de glissements, par nuances, par inflexion. Il y a quantité d'exemples autour de, justement, le Liban comme objet littéraire. J'en cite quelques-uns, comme objet littéraire et comme objet de réflexion. Une bonne partie de l'écriture libanaise, ça a été souligné hier par Abbas Beydoun, est un travail de mise en mémoire. Je donne quelques exemples et quelques titres, et ça n'est absolument pas exhaustif, bien entendu. Liban, 20 poèmes pour un amour, je crois que celui-ci, il ne fallait pas l'oublier, de Nadia Tweni. Clé pour le Liban de Salah Stettier, ouvrage peu connu et extrêmement intéressant. Liban déraciné de Selim Abou, qui est une autre façon de dire les choses. Et puis il y a tout ce qui est du côté de l'histoire, par exemple l'histoire du Liban contemporain de Denise Hamoun, qui est une somme absolument gigantesque. Liban, penser l'État de Leila Barakat, etc. Cette liste est une liste non construite, enfin qui est... n'a rien de scientifique. Ceci dit, ça reflète la diversité des points de vue et puis ce caractère diffracté, là aussi, qui devient un peu un stéréotype tel que ça a pu être exploré par Georges Corme, le Proche-Orient éclaté. Et à l'intérieur de ce Proche-Orient éclaté, eh bien, il y a le Liban aussi éclaté. Voilà, quelques mots de Salah Stettier disent beaucoup mieux que moi je ne pourrais le dire, cette irisation dans la représentation du Liban. C'est peut-être tout cela, cette interpénétration jamais démentie dans la conscience et dans l'histoire d'un grand visible et d'un invisible encore plus grand, qui fait que cette terre d'Orient, que ce Liban étroit, adossé à sa muraille rocheuse comme une marche de la mer, est un pays de poètes. Et c'est cette partie-là de la proposition de Salah Stettier qui finalement m'intéresse en tout cas le plus cet après-midi. On est quand même dans le domaine ici, dans ce que je viens de parcourir, dans le domaine des idées générales. Et il me semble qu'il faut rapidement quitter ce domaine des idées générales et arriver à entendre hein, ce qui appartient à soi, ce qui appartient au parcours, à ces écritures qui, justement, essayent de travailler d'un côté cette incohérence de l'existence et puis de travailler sur cette cohérence de l'intime. Et il me semble que les deux auteurs qui sont ici cet après-midi mènent justement ce travail-là, rapprochement des deux lèvres de cet écart très très fort. Je commencerai par présenter Yasmine Klatt, qui est née à Ismaïlia, en Égypte. Elle rentre à Beyrouth à l'âge de 3 ans. Elle mène des études au collège protestant, que je connais bien. Elle a 16 ans quand la guerre éclate et commence des allers-retours, des va-et-vient entre Paris et Beyrouth. Et c'est par le cinéma, je crois, qu'elle accède à la renommée, puisque le film dans lequel elle a joué, Nahla, film de 78, film de Farouk Belloufa, est quand même devenu un film culte. Je crois qu'on peut le dire et que l'on voit en fait trop rarement. Il a été rediffusé il y a quelques semaines à l'Institut du Monde Arabe, reprojeté. Elle interprète d'autres rôles dans d'autres films et passe elle-même, comme on dit, de l'autre côté de la caméra et tourne Notre Nuit en 1987. Et puis, il se passe un certain nombre de choses, je pense qu'on en parlera. En 2001, il y a la publication de ce livre, Le désespoir est un péché, qui est assez... Elle publie donc Le désespoir est un péché, qui est un roman qui est tout de suite remarqué par la critique et par ses pairs, les écrivains francophones, puisque là, pour le coup, c'est bien ça qui est l'enjeu. Puis elle reçoit le premier prix des 5 continents de la francophonie. C'est la première fois que ce prix est décerné et elle le reçoit. En 2004, c'est partition libre pour Isabelle, qui est un texte, une variation autour de la question du rapport entre le frère, la sœur, la famille, la sororité, et avec l'arrière-plan de l'histoire du retour de Rimbaud. Et cette année, le diamantaire, et qui témoigne donc de la poursuite hein, de cette œuvre littéraire, qui lui permet, je cite un entretien qui a eu lieu il y a quelques mois, qui lui permet de danser entre les langues, d'habiter une nouvelle patrie. Et celle-ci semble se dessiner quelque part du côté un peu de la musique. Hein, partition libre pour Isabelle. Et là, il est question d'un compositeur français, mais cela, je la laisserai en parler. Tamiras Fakhouri est née dans le Mont-Liban, à Beit Shabab. Dans les biographies que l'on peut lire, parce qu'elle est très diffusée sur Internet, on trouve des poèmes, on trouve un certain nombre de choses. Je dois dire que, pour ma part, je n'ai pas eu à ma disposition d'ouvrages de Tamiras Fakhouri, sauf qu'on trouve des textes sur Internet. Elle est citée dans des blogs. Vraiment, il y a des choses tout à fait intéressantes. Et il y a quelque chose qui ressort systématiquement, c'est qu'elle a publié son premier recueil de poésie à l'âge de 9 ans. Bien. Alors, en général, ici, ça inquiète un peu parce qu'on a un précédent qui est, je pense que ça rappellera des souvenirs à certains, l'affaire Minoudrouet, et qui s'est arrêtée finalement assez vite. Ben là, pas du tout. Pas du tout. C'est pas Minoudrouet, c'est la construction d'une œuvre poétique qui s'affirme peu à peu. Il y a 3 recueils qui ont été publiés par les éditions d'Ahr al-Nahr, pas facilement diffusés ici. Obad de 1996, Contre-marée, sur lequel je me suis installé, qui est de 2000, et Poème absent de 2004. Elle publie des textes dans des revues, dans des journaux, au Liban, en France, au Canada, en Allemagne. On a là de la circulation, du déplacement. Je crois que là aussi, ce sont des choses qui vont intervenir dans la suite. Elle participe à des manifestations culturelles, et on peut en trouver la liste. Ceci étant, moi, ce qui me frappe, c'est dans la lecture des textes, c'est l'apparent paradoxe qui est un peu fondateur de cette poésie. Je cite un extrait qui, justement, a été lu hier soir, d'un texte qui, moi, m'avait déjà auparavant beaucoup frappé. Je cite « Rien n'a été écrit après l'agonie de ma ville. La guerre est toujours insuffisante. Nos paroles regardent toujours ailleurs. » Je crois que là, il faut entendre justement ce paradoxe ouvert par la poésie, ouvert par l'écriture, qui est une poésie de la notation comme contrepoint à l'absence. Et là, il y a quelque chose sur lequel il faut intervenir. « La guerre vue de loin », qui est un texte qui a été diffusé sur le blog de Nada Sahnaoui l'été dernier, dit à la fois l'immédiateté du regard, les cyprès, le jasmin, les peupliers, mais aussi leur agonie sans fin, comme un cliché rebattu. Je cite « Une chanson lointaine, opaque et inconnue, pourtant qui ne parvient à prendre forme sinon que comme une histoire irréelle, une onde évanescente. » Donc cet apparent paradoxe, je dis les choses qui ne sont pas là, je les évoque, me paraît être quelque chose qui travaille très très fortement cette poésie. Et Tamiras Fakhouri interroge ces glissements. Par ailleurs, ou en même temps, Tamiras Fakhouri réside en Allemagne, à Freiburg, où elle prépare une thèse en sciences politiques. Elle est l'auteur d'un certain nombre d'études en politologie, dont le titre est en anglais, donc je vous épargnerai la mauvaise qualité de ma prononciation, et un certain nombre d'études consacrées au Liban d'après-guerre. Pourquoi est-ce que je cite cela? D'abord parce qu'il y a des choses qui lui appartiennent, mais en même temps, parce qu'il y a quelque chose qui résonne. Voilà quelqu'un qui écrit des poèmes, pour l'instant en tout cas, et parmi ceux que j'ai évoqués en français, mais qui, je suppose, vit dans le quotidien en allemand, ou en tout cas enseigne en allemand, et publie en anglais des études, ma foi, fort sérieuses, et qui parlent d'un engagement dans quelque chose. Et là, on a justement quelque chose qui tourne autour de la question des langues. Voilà, alors ce sont ces angles-là qui me paraissent être tout à fait intéressants, et qui marquent cette diversité des angles chez les deux auteurs, la question de l'image, la question du rapport au document, au roman, à la poésie, à cet entrebâillement entre les langues, avec toujours cet arrière-plan d'un pays, hein, d'un Liban, qui est évoqué, qui est tout le temps présent, même s'il n'est pas dit directement, mais en tout cas, il est là. J'étais très, très frappé, on en a parlé un peu auparavant, dans le diamantaire, quelque chose qui est très, très impressionnant, qui est des notations très, très fines, très, très simples. Et pourtant, on est dans la montagne libanaise. Ça m'avait vraiment, vraiment beaucoup touché. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a un rapport à ce pays, à l'inscription de ce pays, l'inscription de la vision de ce pays, qui est très, très particulier. Je cite une dernière fois le diamantaire dans la lettre de Lila au compositeur Pascal du Sapin. « Il faut dire que j'habite un pays qui va très vite au bout de lui-même et du monde. » Voilà. Je pense que moi j'en ai fini de ma présentation. Je vous propose, Yasmine Klatt, de justement d'explorer ce temps des parcours et des différentes facettes.
De quelle manière?
Justement, cette question de l'inscription de ce passage dans les différentes formes et comment cela ça s'inscrit. Parce que là aussi, il y a une évidence, qui est l'évidence du déroulé des biographies. Vous faites du cinéma. Vous faites de la radio, vous écrivez des romans. Comment tout ça s'articule?
Je dois dire que les choses se sont articulées très vite, justement, autour de cette rupture, de cette cassure qu'a été la guerre du Liban. Parce que c'est vrai que, bon, normalement, hein, parce qu'il y a d'autres ruptures et d'autres cassures dans la vie que les guerres, mais On est dans un parcours linéaire, on est dans l'adolescence et puis vers l'avenir, etc. On décide de ce qu'on va faire et tout. Mais quand on a une vie qui est bousculée justement par l'histoire, on rentre dans une ère de rupture où il y a beaucoup de choses qui sont en désordre, mais où justement je pense que c'est là que peut advenir quelque chose qui tend vers l'art. Et bon, l'écriture a toujours été là, l'écriture, la lecture. Mais c'est vrai que vers 16-17 ans, j'ai commencé ces allers-retours entre Paris et Beyrouth. Et puis, à l'âge de 18-19 ans, j'étais à Beyrouth. Et puis, j'ai fait du cinéma un peu par hasard. Mais c'est vrai que ce parcours dans le cinéma, puisque j'ai joué dans 3 films et qu'ensuite, bon, j'ai fait des études à Sancy, à Paris 3, et qu'ensuite j'ai réalisé un documentaire de création, c'est vrai que ça a été un apprentissage de l'image. Et que cet apprentissage-là, cette approche de l'image, du champ, du hors-champ, des ombres, des lumières, de ce qui est montré, de ce qui n'est pas montré, de ce que peut donner le son et de ce qui peut reprendre, des différents temps qui existe dans l'image, dans le cinéma, etc. Je crois que c'est quelque chose qui m'a énormément enrichi pour l'écriture. Et même si j'ai arrêté de faire du cinéma il y a assez longtemps, ça ne me quitte absolument pas. C'est quelque chose qui est toujours dans ma démarche d'écriture, cette approche de l'image, du visuel. Et je devrais dire plus même que l'image elle-même, les mouvements, parce que c'est vrai que bon, quand on filme, quand on fait un travelling, quand on a une certaine manière d'appréhender la réalité, le réel, d'aller vers lui, de lui imprégner des mouvements, des choses très rapides. Et je dois dire que c'est quelque chose aussi, quand j'écris, qui est là, une espèce de manière d'essayer de faire... parfois basculer le monde comme nous-mêmes là. Enfin, bon, donc ça c'était pour le cinéma. Et quand j'ai arrêté le cinéma, quand j'ai arrêté de tourner parce que bon, je suis venue à Paris, je me suis installée ici, je me suis dit bon, je vais reprendre ce fil de l'écriture que j'ai un peu quitté vers l'âge de 16 ans, je dois dire, parce que justement la guerre, tout d'un coup, et là c'est le problème des langues, si vous voulez. Quand vous vivez, si vous voulez, je suis née à Ismaïlia, en Égypte, de parents d'origine libanaise, dans un milieu très francophone. Et donc, je suis arrivée au Liban, je parlais à peine l'arabe, enfin, j'étais pensionnaire dans une école, je m'engueulais parce que je disais au lieu de dire naam, enfin, toutes sortes de choses, quoi, j'étais. Et puis, bien entendu, après, bon, j'ai bien appris l'arabe. Mais quand la guerre a éclaté, tout d'un coup, cette écriture que j'avais, qui était quelque chose de très important pour moi, j'écrivais des poèmes, j'écrivais quotidiennement, j'étais vraiment là-dedans, tout d'un coup, était totalement impuissante à dire ce qui se passait au Liban. Il y avait une sorte de grande culpabilité de ne pas écrire en arabe, de ne pas arriver, de se sentir, du coup, hors champ. Complètement hors champ, de se dire, mais je ne peux pas retraduire ça, puisque je n'ai pas vraiment cette... Parce que pour écrire, quand même, je pense qu'on ne peut écrire que dans la langue avec laquelle on a cette familiarité de vraiment de la toute petite enfance, cette musique de l'enfance, hein, de ce qui peut... Je pense qu'écrire, ce n'est pas simplement s'asseoir, réfléchir et dire, bon, je vais écrire comme ça. Il y a ça, bien entendu, il y a la structure. Mais il y a aussi autre chose qu'il faut savoir faire monter en soi, et auquel il faut savoir se livrer, qui est une sorte de musique interne, comme ça. Je me suis retrouvée dans le silence pendant de nombreuses années. Je faisais une interview pour RMC Moyen-Orient, dernièrement, justement, enfin, il y a la semaine dernière, de Zad Moulta, qui est un compositeur de musique libanais, et qui, lui, aussi crée sa musique entre Orient et Occident. Et il m'a raconté exactement le même phénomène. Pendant des années, il a arrêté de composer. Il ne pouvait plus composer. Il était tellement déchiré entre cette partie orientale de lui-même, arabe, cette partie arabe de lui-même, et cette partie occidentale. Et surtout, je pense, cette culpabilité par rapport à la guerre et à ce qui se passait, qu'il s'est retrouvé dans le silence. Et c'est ce qui m'est arrivé, moi. Et ensuite, j'ai repris et j'ai écrit, mais je n'étais pas dans l'écriture. J'étais dans une surface de l'écriture. Et j'ai dû faire tout un travail, mais ça m'a pris vraiment des années, un travail presque psychologique d'accepter cet exil, d'accepter cette rupture, d'accepter d'être à moitié libanaise ou un quart libanaise ou je ne sais pas combien, arabe ou pas arabe, etc. D'accepter que cette unité pourrait se faire par l'écriture et dans l'écriture. Et c'est à partir de ce moment-là que l'écriture a pu vraiment advenir. Voilà. Donc,
D'accord, donc c'est à partir de cette expérience d'un exil intérieur, finalement.
Oui, tout à fait.
Qui traverse les personnages des romans. On va y revenir, parce qu'il me semble que, justement, là, il y a une trace. Les personnages des trois romans, justement, sont traversés par cette histoire. Il y a une sorte de redoublement. Je vais vous passer la parole à Tamira. Est-ce que c'est un bon micro?
Je crois. Je sais pas.
Justement, sur cette question des parcours et cette traversée des langues, comment ça se passe?
Oui, je vais parler de mon parcours poétique et du labyrinthe de la poésie. En fait, oui, j'ai commencé à écrire très tôt, à l'âge de 6 ou 7 ans, je ne me rappelle plus. C'était plutôt un besoin naturel, très spontané. Le fait que j'ai grandi dans une maison d'écrivains et de journalistes, ça m'a poussée à écrire et à apprécier la littérature. Surtout la poésie qui représentait à mes yeux l'incarnation de la folie indisciplinée. Lorsque j'étais enfant, j'ai toujours eu l'impression que le roman représentait un monde organisé avec des personnages précis, une histoire précise, un narrateur précis, tandis que la poésie, c'était le seul univers où l'on pouvait raconter des histoires grotesques, bouleverser l'histoire, les lieux, par-delà les frontières de la langue et par-delà les frontières de l'humanité. Cet espace de liberté était essentiel parce que je suis née lorsque la guerre a commencé et ça m'a permis de construire des mondes personnels de mystère et de lumière, des mondes d'escapade, quoi. Surtout pendant la guerre, dans l'abri, il n'y avait pas beaucoup de divertissement. C'était surtout la petite forêt de mon village, Beit Shabab, ou bien la poésie. Où j'inventais des trames poétiques, je les fabriquais, qui parfois me dépassaient, et je n'arrivais plus à comprendre la poésie, c'était quoi, l'aboutissement de la poésie. Le tournant essentiel dans ma poésie, c'était la guerre. Adolescente, j'avais une image très romantique de la guerre. Je n'entendais que les nouvelles à la radio et que le son des bombes qui pleuvaient à Beyrouth. J'avais toujours le sentiment que les bombes ne pouvaient pas m'atteindre, qu'il y avait une paix intérieure très forte et plus solide que la mort et que le bombardement. Ce n'était qu'en 1989 et en 1990, au cours de la guerre interchrétienne et la guerre de la libération, que j'ai vraiment senti que la guerre est au seuil de la porte. Et ce qui me dérangeait beaucoup plus que la guerre, en fait, que le bombardement, c'était mon histoire personnalisée de la guerre. C'était le trajet quotidien de mon père à Beyrouth. Je nourrissais une angoisse secrète qu'un jour il ne rentrerait plus le soir. Et c'était cette peur, cette angoisse qui me préoccupait plus que tout. Le fait que j'ai vécu au Mont-Liban, loin du Nintamar quotidien de la guerre, ça m'a empêché de vivre concrètement les épisodes, les batailles de la guerre, mais c'était une protection artificielle. Ce n'était que plus tard que j'allais faire la connaissance du vrai Liban en sortant de mon canton monoconfessionnel et en écoutant d'autres versions de la guerre libanaise, du conflit libanais, de la tragédie. J'appris alors que ma version du monde, la version du Liban, c'était subjectif. Et qui n'avait pas de vérité absolue, mais en fait, il y avait mille et une versions de la guerre libanaise, du conflit libanais, de l'identité libanaise. Et c'était là le tournant décisif dans ma poésie. Et c'est alors que ma poésie a subi une transformation. Ce n'était plus cette folie indisciplinée, mais c'était une tentative sérieuse de pouvoir restituer l'identité multiple, ce déchirement multiple.
Je prends le repas, je
fais
le repas.
Ah, d'accord. Ça va mieux. Donc, oui, c'est à ce moment que la poésie est devenue une tentative sérieuse de restituer l'identité multiple, ce déchirement multiple. Mes poèmes, c'est une tentative de reconstituer la conscience multiple entre les lieux, les conflits. Pour moi, c'est surtout la vision d'un monde fragmenté et désuni. Et il n'y a que les mots pour établir un pont entre la réalité démembrée et la conscience subjective. Et mes recueils proposent de capturer ce moment poétique dans sa fragilité et sa grandeur. J'ai voulu aménager ce chaos existentiel qui me guette. Et avec le langage, j'ai voulu surtout métamorphoser le temps et l'attente. C'était l'attente que la guerre finisse. Et avec la plume, j'ai essayé de transfigurer la guerre, de l'humaniser, de la réinventer, et puis de situer aussi cette angoisse indescriptible, l'angoisse de l'après-guerre. Mes poèmes écrits entre 1997 et 2000, c'était surtout l'aboutissement d'un conflit incessant avec le temps, les lieux, les personnes. C'était des poèmes de la révolte et qui essaient de défier la conscience éphémère, la conscience de la mort, la conscience de l'éphémère. Les mots que j'employais, c'était pour transposer les états multiples d'une poésie libérée de toute contrainte. C'était aussi pour percer les secrets de l'inattendu et transcender la raison discursive. Ces poèmes avaient pour thème l'homme universel, qui s'efforce de consolider sa relation avec le monde et qui essaie d'enraciner sa mémoire affective dans l'histoire. Et plus récemment, ma poésie a changé, c'est devenu une quête immanente des modes de conscience. Le fait d'être à cheval entre le Liban et l'Allemagne, entre l'Europe et le Moyen-Orient, c'est comme vous avez dit, c'est un exil intérieur, c'est un déchirement intérieur. Et j'essaie à travers ma poésie de capturer ces modes de conscience, ou bien ces états de déchirement. Je compare mes poèmes à des coïncidences rhétoriques, qui imitent les coïncidences du destin, de la nature, les jeux du hasard. Des coïncidences qui essaient de réconcilier les antithèses de la condition humaine et qui veulent capter les membranes de la réalité telle qu'elle est vécue par, par des couches de conscience différentes. Le poème devient la distance entre le moi et l'autre moi, la conscience et l'autre conscience, donc ce déchirement. J'essaie de capturer ces nodis qui, en fait, constituent la trame quotidienne de notre existence, mais qu'on ne voit pas. Donc, la poésie devient un accident, cette chaîne d'événements fortuits qui, comme j'ai dit, compose la trame de notre existence. Mes poèmes récents se concentrent sur la recherche d'un pays, sur l'identification de l'homme avec son pays, son espace, sa nation, cette nation impossible que je ne retrouve pas. Merci.
Merci. Dans justement l'évocation de ces parcours, on voit que les choses sont évidemment différentes, et heureusement qu'elles le sont, mais en même temps, on voit bien qu'il y a des constantes. Hein. On a rappelé, on a rebondi sur cette question de l'exil tel qu'il est perçu en soi, et comment effectivement l'écriture devient
شمان شیوم رشه اوزالنا لیش من تردونی اکتر لیش
qui arrive à cet âge-là. Et c'est l'âge de Lila. Elle est divorcée, elle est loin de son ex-époux et de ses enfants qui sont en France. Elle est donc presque seule au Liban et avec un voisin qui habite dans une dépendance de la maison, qui est un musicologue. Et ce musicologue est absolument obsédé par certaines œuvres du compositeur Pascal Dussapin, qu'il passe et repasse en boucle. Et cette femme qui était en train de se ratatiner dans son échec et dans sa solitude et avec ses traductions, etc., va être bousculée par cette musique, absolument bousculée, va essayer de la fuir, se dire mais quelle horreur, je vais inviter plein d'amis, faire des barbecues, mettre des Miss Rousseau à plein tube pour que le musicologue fuit, etc. Mais le musicologue ne fuit pas. Et petit à petit, Lila va se détourner de cette espèce de néant sec vers lequel elle se dirigeait. Et malgré l'annonce d'une maladie qui lui est faite par un médecin, elle va, malgré le désastre, autant le désastre de son propre pays que son propre désastre, elle va se rattacher à quelque chose qui n'est possible sans doute que par l'art, qui est quelque chose... Elle va écrire à ce compositeur qui lui envoie une musique si particulière pour essayer d'aller au-delà du désastre et pour essayer de léguer à ses enfants un message d'espoir malgré tout. Et donc, c'est une... Il y a ça et il y a à la fois en filigrane... quelque chose qui est proche, très proche de la biographie de Pascal Dussapin, avec lequel j'ai conduit de nombreux entretiens avant d'écrire ce roman. Voilà.
Merci. Oui, justement, cette question-là, cette articulation qui m'intéresse tout particulièrement, parce que c'est un dispositif qu'il me semble... on retrouve, enfin, qui est là déjà dans Partition libre pour Isabelle, c'est-à-dire que les personnages vivent une existence, vivent quelque chose, et puis, en fait, derrière cette histoire, il y a une autre histoire, et il y a une, à la fois du parallèle, et puis pas toujours du parallèle non plus.
Vous touchez là un point extrêmement indispensable pour moi, qui est la condition sine qua non qui me permet... qui me permet de me mettre à un roman et de l'écrire, c'est que j'ai absolument besoin de rencontrer dans autrui ou dans quelque chose qui est extérieur à moi ce que j'ai envie d'exprimer. Hein, c'est une espèce de, comme ça, d'intersection entre... Et c'est ça, Partition libre pour Isabelle, c'est l'histoire d'une sœur qui accompagne un peu son frère, qui va mourir. Et c'est en même temps, c'est l'histoire de... Il y a en filigrane derrière, en référence, les derniers mois d'Arthur Rimbaud et les mois qu'il a vécu accompagné par sa sœur entre Charleville-Mézières et Marseille. Donc, certainement... Bon, c'est comme les gens qui vont faire une psychanalyse, quoi. Ils ont besoin du psychanalyste face à eux pour pouvoir opérer un transfert. C'est la même chose. Je crois que... Bon, il y a des gens qui arrivent à écrire sur leur propre histoire. Bon, j'ai un oncle qui écrit aussi beaucoup et que certains connaissent, qui m'a dit « Mais enfin, quand même, tes livres... Il y a quand même beaucoup de choses personnelles qui passent dans tes livres et tout ça. » Mais bon, je pense que c'est beaucoup l'histoire, enfin en littérature, où quand on écrit, on ne peut partir que de soi-même, mais en s'ouvrant au monde. Et il y a un jeu de miroir entre soi et le monde, et quelque chose, la rencontre qui permet tout d'un coup de sortir de soi-même et de s'exprimer.
Tamiras Fakhoury, est-ce que vous reconnaissez ici... un peu, hein, on va fonctionner par analogie parce qu'il y en a d'autres qui me viennent à l'esprit, mais est-ce que vous reconnaissez ce double que vous avez évoqué tout à l'heure, hein, cette autre personne qui est là et qui vient fonctionner. C'est intéressant parce que la figure du double est apparue aussi hier. Hein. Il a été question d'un frère jumeau. Je ne sais pas si vous en souvenez. Mouawad a parlé de ce frère jumeau qui était là, qui était présent justement dans ce rapport à ce Liban en guerre.
Oui, en fait, ce double... je viens d'évoquer, ma poésie, c'est surtout la recherche de l'identité multiple. C'est parce que je suis consciente qu'il y a plusieurs moi qui coexistent, enfin plusieurs identités, plusieurs appartenances. Et ce n'est pas facile de cerner ces appartenances qui parfois coexistent et qui parfois refusent de coexister ensemble. Et la poésie, c'est cette quête d'harmonie. J'essaie d'harmoniser toutes ces voix, toutes ces appartenances qui veulent parfois coexister, qui veulent parfois se nier l'une l'autre. Et parfois, j'arrive à le faire. Parfois, c'est vrai que ma poésie m'échappe, comme je viens de dire. Et pour le moment, c'est vrai que je me sens déchirée. Après tout ce qui s'est passé au Liban, après tous les événements, j'essaie de trouver une appartenance finale. Et même si sur le plan personnel, je me sens déchirée, mais c'est vrai que ma poésie en a profité parce qu'elle est devenue plus transparente, plus osée, plus directe. Je recherche dans les images de l'exil ces modes de conscience multiples qui essaie de se retrouver, de se rencontrer. Et j'essaie de reconstituer aussi des points de repère dans ma poésie et de synchroniser un peu le passé que j'avais au Liban et le présent que j'ai maintenant en Europe et ces allers-retours. J'essaie aussi de reconstituer les lieux, parfois les personnes. Et ce n'est pas évident, donc la recherche du double... c'est présent dans tous les vers et je dirais que parfois c'est la paix avec ce double et parfois c'est le conflit. Et c'est ça l'importance de la poésie, c'est qu'elle se prête à une lecture plurielle, c'est la coexistence mais c'est aussi la négation du l'autre, de l'autre. C'est la paix mais c'est aussi la tempête intérieure. Et tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent, c'était surtout l'aboutissement de ce conflit intérieur et ce déplacement entre le Liban et l'Allemagne, et l'Europe, et cette quête d'un lieu final où je pourrais me retrouver.
Oui, justement, dans ce rapport conflictuel, il y a quelque chose qui est frappant dans les textes que vous écrivez. Qui est le fait que très très nombreux, alors c'est encore une fois une intuition, c'est pas fondé sur des relevés lexicaux précis, mais très très souvent on a des textes à la première personne du singulier, il y a quelques textes qui commencent avec un nous, et qui supposent à chaque fois la présence de quelqu'un à qui on s'adresse. Dans, par exemple, peut être dans La Page Blanche, la revue La Page Blanche, et... poète de service, il y a un texte qui commence justement par un nous. Que... Voilà, c'est pas un nous, pardon. Il y a un texte qui commence par un nous après, qui est celui-ci, qui est assez, enfin qui est très fort. Pourriez nous le lire ? Le cahier de la Révolution, qui est très court.
Le cahier de la Révolution. Notre chambre est déportée, la corde au cou. Elle tisse les barreaux d'un paysage florentin.
En quoi, merci. En quoi ce paysage est-il florentin ? À l'intérieur de cet univers intérieur. C'est pas, je parle pas ici d'une référence. À un moment ou un instant précis. C'est par rapport à l'économie générale du recueil. Il y a des mots extrêmement forts. C'est-à-dire la chambre est déportée, la corde au cou. Enfin, on est dans un univers qui porte là aussi votre marque de fabrique très très fortement sous la forme de quelque chose qui est très très ramassé. On est, c'est pas un haïku, mais on n'en est pas très très loin. On est dans une forme très 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 brève et qui rejoint, hein, si on fait jouer ce texte avec d'autres textes de cet ensemble de qui a été recueilli par le par la revue. Il y a quelque chose ici qui résonne très très fortement avec d'autres textes, notamment le texte que vous nous avez lu hier.
Oui. En fait, j'ai été très influencée par ce qu'on appelle dans la littérature anglaise « the stream of consciousness », c'est-à-dire le courant de la conscience ou de l'inconscience, je ne sais pas. Et pour moi, la poésie, comme j'ai dit, c'est la restitution de la fragmentation, la multiplicité. Et quand je parle du paysage florentin, c'est un peu ma conscience qui interfère avec d'autres consciences. C'est un peu la tentative de capturer des réalités multiples dans le monde et là où la tragédie peut-être rejoint l'esthétique, où le conflit rejoint aussi d'autres couches de réalité. Et c'est surtout ce jeu dangereux entre les accidents, les coïncidences, le jeu du hasard et le jeu de l'esthétique qui me passionne dans la poésie. Et j'essaie de capturer dans ma poésie cet instant de la conscience qu'on vit. Et ça peut être reconstitué des paysages, des images et le point d'intersection entre la tragédie, entre l'esthétique aussi, ça me fascine. Et c'est surtout ces doubles, ces dualités, ces conflits sont présents partout dans ma poésie.
Merci. C'est effectivement toute la question de l'esthétisation de la tragédie qui a été là aussi largement évoquée et l'humanisation de cette tragédie. On va en venir, si vous voulez bien, un peu au début, qui est la question de la vision du Liban qu'on est en train tranquillement de laisser de côté au profit de cette vision intérieure. Encore que, on pourrait là aussi gloser. Je crois que les choses tournent autour de ça. Autour de cette phrase du diamantaire qui est « Le Liban, c'est ça aussi, un robinet en marbre qui fuit. » Le pays, pardon, c'est ça aussi, un robinet en marbre qui fuit. Qui est une... si je fais un glissement... pardon. Si je fais un glissement un peu facile, il y a quelque chose, effectivement, du flux de conscience dans ce robinet un peu qui fuit et qui est... Mais c'est ça. Enfin, il y a des mouvements de fuite et puis, hop, ça se rattrape. Je voudrais qu'on voit la littérature un tout petit peu de côté et qu'on revienne sur des aspects un peu plus quotidiens, un peu plus concrets. Je sais qu'il y a des actions qui sont menées en direction du Liban. Il y a une réflexion, un discours conceptuel. La poétesse que nous entendons produit un discours conceptuel hard. J'ai lu, hein. C'est hard, c'est du très très concret, c'est solide, c'est de la science politique, hein. Et on n'est pas du tout dans le même niveau de discours, mais sauf qu'on peut les mettre en relation les deux. Mais ça, je vous laisserai le faire. Je sais, Yasmine, qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont menées, il y a un certain nombre de choses qui sont faites. On en a parlé un petit peu autour de la question du handicap, par exemple.
Il se trouve que j'ai pu faire un travail d'interview auprès de personnes handicapées, blessées de guerre, qui sont les membres d'une association libanaise qui s'appelle Arc-en-Ciel. Et c'est un travail que j'ai fait, mais il y a assez longtemps, en 98. Et le but, en fait, était de faire un documentaire de création. J'avais eu une avance de la ProCIREP qui m'a permis d'aller faire ce travail au Liban, etc. Le film n'a pas abouti parce que c'était un sujet trop difficile et les gens, bon, entre-temps moi j'avais écrit un scénario et puis plus tard, quelques années plus tard, j'en ai fait une nouvelle qui s'appelle Variation autour d'un conte. Si vous voulez, ce qui était frappant dans cette association-là, c'est que justement, ce n'était pas des choses qui étaient faites pour les gens, c'était des gens qui faisaient des choses pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils m'ont raconté tous, enfin chacun, comment pendant la guerre ils ont été blessés, ils se sont retrouvés dans des couvents ou ils se sont retrouvés dans des institutions où ils étaient un peu mis à l'écart de la vie, quoi. C'était fini, ils étaient là en tant que... Et puis, grâce à cette initiative-là, ils ont pu mettre en place des choses pour... et avoir un travail, et se resocialiser, et certains se marier, etc. Mais c'est l'idée même, le moteur de ça, c'est que c'était eux-mêmes qui faisaient, et non pas qu'on faisait pour eux. Alors, je ne sais pas du tout où on est arc-en-ciel, mais je sais qu'à l'époque où j'avais été... C'était une association qui essayait de rester extrêmement discrète pour justement arriver à travailler avec cette excellence-là, et de cette manière-là. Maintenant, je pense que ce qui nous a tous frappés pendant cette dernière guerre, ça a été la manière dont les enfants ont été touchés. Mais je pense que c'était particulièrement fort, enfin, presque plus fort que d'habitude. Donc, je sais qu'il y a des choses qui ont été mises en place, notamment par le gouvernement libanais, mais je ne sais pas ce que... Je ne sais pas.
Oui, ce qui est important, c'est que bon, y a ça, et il y a ce travail qui a été réalisé, et qui, d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou non, qui alimente le travail littéraire. Et c'est cette articulation entre les deux qui, je pense, enfin, en tout cas, m'intéresse tout particulièrement, parce que c'est pas facile d'en parler. On tourne ici depuis 3 jours autour de quelque chose qui est important, et je crois qu'il peut rester un des grands thèmes au-delà de le Liban entre rêve et cauchemar, qui est l'activité littéraire par excellence, qui est une activité de mise en mémoire, parce que ça, c'est un peu essentiel. Et la mémoire a été passablement interrogée. Et je remarque qu'on n'était pas très très nombreux avant-hier soir pour voir le film de Randa Shahal.
Mais à ce sujet, en fait, je voudrais dire quelque chose de tout à fait improvisé. De toute façon, tout. Mais moi, ce qui m'a frappée chaque fois que je suis retournée au Liban, puisque en fait, je suis restée au Liban, donc j'avais fait ces allers-retours. Et puis après, je suis restée entre 83 et 86, j'étais à Beyrouth et j'avais tourné un film en tant qu'actrice à Damas. Et puis c'est là qu'à Beyrouth, j'ai fait ce documentaire de création avec des femmes, dans un immeuble. Et c'est avec des femmes d'appartenance religieuse et sociale différentes. Et ce film raconte un peu leur relation et comment il y avait cette vie où tout d'un coup les hommes n'étaient plus là et comment les choses se passaient entre elles. Et après, quand je suis revenue, ce qui m'a frappée et même sidérée, c'est que chaque fois qu'on disait, bon, je viens faire une enquête pour les blessés de guerre, les handicapés, etc., j'ai envoyé, j'ai eu un truc. Quoi encore la guerre, les Libanais ne voulaient pas en entendre parler. Et ça devenait presque quelque chose de tabou, quelque chose qui avait bouleversé leur vie, qui avait pendant 15 ans, et il ne fallait plus en parler. C'était. Et y a, ce travail de la mémoire s'est fait, je pense, difficilement. Je sais qu'il y a des gens, Amal Makarem, oui, qui a initié quelque chose à ce propos sur. Sur la mémoire, bon, il me semble que c'est absolument indispensable que ce travail puisse être fait pour qu'on arrive à ce pays qu'on est quand même... Enfin, vous parlez de vision du Liban. Alors, je me suis demandé, mais est-ce que j'ai une vision du Liban? Moi, c'est vrai, je me suis dit, j'ai un vécu du Liban, j'ai un vécu de l'éloignement du Liban. Mais est-ce que j'ai une vision du Liban? Est-ce que... Bon, et puis, je pense que c'est... Après, je me suis dit, si, pour être honnête, quand même, j'ai une vision. Et personnellement, mais je ne sais pas à quoi ça tient. Pourquoi ? Moi, j'ai une vision d'un pays unifié. Et c'est quelque chose en moi qui est très... Mais je sais qu'il y a des gens qui...
Merci beaucoup. Tamiras, dans ce travail de recherche que vous menez actuellement, et dans cette thèse que vous allez bientôt déposer... justement, est-ce que cette question de la mise en mémoire, elle est aussi centrale?
Le travail de la mémoire, c'est un travail qui prête à équivoque, ou bien qui est très ambigu. Parce que enfin, dans la politologie, il y a beaucoup de politologues qui disent que le travail de la mémoire commence quand la réconciliation a eu lieu. Et la réconciliation n'a pas eu vraiment lieu au Liban. Il y a des politologues qui disent que c'est très tôt de faire le travail de la mémoire parce que les plaies sont encore vivantes et qu'il faut attendre que ce subconscient travaille tout ce qui s'est passé. Et donc, je ne sais pas vraiment si l'amnésie est bonne ou mauvaise dans ce cas. Je suis toujours en train de réfléchir le processus de la mémoire ou bien de l'amnésie, si ces deux processus doivent être des processus spontanés, c'est-à-dire qui doivent avoir lieu après la réconciliation intercommunautaire et après une réconciliation qui soit vraiment réelle. C'est-à-dire, avec quoi doit-on se réconcilier ? Qu'est-ce qui a vraiment eu lieu pendant la guerre ? Quelle est notre version de la guerre ? On n'est même pas d'accord sur une version de la guerre au Liban. Le conflit libanais, c'est quoi ? L'autre, c'est quoi ? L'autre communauté, c'est quoi ? C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de version cohérente. On est toujours à la recherche de la mémoire. Mais de quelle mémoire recherche-t-on au centre-ville, à Beyrouth ? Quelle mémoire recherche-t-on au sud, par exemple ? Après la guerre de juillet, maintenant, qu'est-ce qu'on recherche ? Quel Libanais ? Quel Liban recherche-t-on ? Et c'est pour cela que je ne sais pas si le silence, parfois aussi, si le silence aide au recueillement et à la pensée, à la recherche du vrai Liban.
Il me semble que là aussi, c'est une idée qui était importante, mais qui me semble aussi caractériser les écrivains d'une génération qui est la vôtre, justement, cette demande de silence. Là aussi, on a pu entendre Wajdi Mouawad qui évoque des paradoxes que, ben, finalement, on commence à retrouver chez, justement, des écrivains de votre génération, qui est, faut peut-être se taire, mais en même temps, pour mieux que les choses se disent. C'est-à-dire que c'est très paradoxal dans le théâtre de Wajdi. Lui se tait et raconte qu'il a passé sa vie à se taire, mais alors les personnages, qu'est-ce qu'ils parlent ? Et il déverse, hein, et il déverse par tombereau entier. Et précisément, dans les textes, là aussi, beaucoup de choses se disent, mais dans les plis, dans les déplacements, dans les glissements. On peut encore une fois revenir à ce qui est, je pense que vous le savez, c'est considéré comme un texte quasiment fondateur dans les milieux de certains écrivains francophones. Le désespoir est un péché. Il est cité à l'âme à Bankou, le cite très 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 régulièrement, et parce que on a la mise en scène du grand absent. Nada, c'est le personnage qui est toujours le grand absent. C'est la servante. Qui ne sait pas lire, qui écrire, qui est arrivé, qui a été livré par sa mère. Et c'est en cela que ce personnage est d'une très très grande intensité dans les mémoires. Voilà, je pense que ici on en a un peu. On va passer la parole à la salle. Peut-être il y a des questions à poser à nos deux auteurs. Voilà, Gérard Khoury a des questions.
De ce débat mené par Yves Chemla avec beaucoup de finesse et de subtilité qui a permis révéler un certain nombre de ressorts aussi bien du fort intérieur que de la scène collective. Et je suis saisi aussi par l'émotion dans la mesure où les deux parcours qui sont décalés par rapport au mien me réconfortent dans une fraternité ou sororité très grande. Parce que ce que j'ai vécu avec quelques coudées d'avance à partir d'autres guerres qui étaient pour moi aussi inquiétantes mais qui ont été naturellement accentuées par, je parle de 58, qui a été pour moi quelque chose de très précurseur, alors qu'on était dans un plein âge d'or du Liban, qui a été ravivé. Donc ce n'est pas une question, c'est un témoignage et une émotion que je voudrais transmettre. Ce que j'ai vécu ensuite par l'amplification de 15 ans de guerre au Liban me paraît constituer à travers l'écriture un monde qui nous réunit d'une manière presque indicible, où nous avons en même temps été au plus écorché de la subjectivité et en même temps dans une incapacité à le traduire en termes narcissiques, c'est-à-dire en termes de biographie personnelle, où il a fallu trouver des biais de dépassement de cette atroce douleur et de sa matière presque insupportable à transmettre pour que l'écriture advienne. Et c'est cette distanciation qu'on trouve aussi bien dans les livres de Yasmine Klatt que j'ai lus jusqu'au Diamantaire, et dans la poésie de Tamira Sfarduri que je découvre et qui hier m'a fait un choc immédiat. J'étais à côté de vous, Yves Chemla, et ça m'a saisi à la figure. Mais ce qu'elle nous en a dit et ce qu'elle m'a dit aussi en privé hier soir de son parcours géopolitique et de ses travaux me réunit avec elle, parce que j'ai aussi essayé de mener de front et une subjectivité radicale face à la violence et à la guerre, et je suis aussi pris dans une figure de double. Dans La Maison Absente, j'ai mis en scène deux frères. Et on m'a dit, et c'est pas faux, que ce sont deux facettes du même moi dans lesquelles j'ai mis les contradictions que je pouvais vivre moi-même, mais aussi celles que la société à laquelle j'appartiens vivait, celle d'un idéal et celle d'un rapport à l'affairisme, à la corruption. Nous sommes absolument pas à l'abri de ces contradictions internes. Donc je ne vais pas développer davantage, mais je suis dans la grande émotion. Et je remercie Yasmine Klatt et Tamiras de me permettre de me relier à elle au-delà d'un problème de génération et au-delà de ce qui différencie nos démarches spécifiques. Nous sommes d'une même famille, et dans le moment que nous traversons après ces répétitions de la violence et l'absurdité qu'elle représente, être d'une même famille de pensée, car c'est aussi quelque chose qui n'épargne pas la pensée, et l'esthétisation de cette pensée qui est indispensable pour que le message ait son sens, eh bien, je remercie Yasmine et Tamiras de me permettre d'être de leur même famille.
Merci beaucoup, Gérard, et puis merci de votre compliment auquel je suis sensible. Je voudrais juste quand même dire une petite chose par rapport à ce dispositif et par rapport justement à ces entretiens pendant 3 jours, il y a quelque chose qui n'est pas interrogé, qui est, et je ne pense pas que ça le soit, qui est un peu la mémoire française sur ce qui se passe et ce qui s'est passé au Liban. On n'arrête pas de parler de ces histoires France-Liban, enfin de ces relations. Vous êtes remonté aux capitulations vous-même. Je l'ai fait moi aussi dans d'autres textes. Mais je crois qu'il faut se souvenir de quelque chose qui est important, justement, puisqu'on parle de génération. Moi, j'avais 18 ans en 1975, et donc cette histoire, je l'ai vécue dans une très très grande incompréhension. Je ne vais pas revenir dessus, je ne suis pas le seul, etc. Et avec le sentiment extrêmement fort, un, de l'impuissance, très très fort, de l'inanité d'un certain nombre de comportements, de l'imposture d'un certain nombre de discours à prétention politique. Je veux dire, ce qui s'est passé au Liban a affecté le Liban, et je ne mets pas un point de comparaison, bien évidemment, ce n'est pas la même chose. Mais du point de vue du rapport au politique, je veux dire, ça a été notoirement ravageur.
Je peux essayer de vous répondre que mon désir était d'être dans l'écriture et dans la littérature, et la guerre m'a conduit à essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé, et d'où un travail d'historien qui n'était pas mon premier travail. J'ai commencé par la philo et l'économie. J'ai fait un travail d'enquête quasiment au jour le jour pour comprendre les origines du Liban et des pays de la région dans une optique qui n'était pas une optique unilatérale, c'est-à-dire où la responsabilité incombait uniquement à la France. Donc tout ce qui touche à l'image que la France a laissé n'est pas simple. Et donc j'ai essayé de reconstituer les origines à travers des documents que j'ai eu la chance ou la capacité de trouver, qui restituent la complexité. Et mon dernier travail est justement de publication de textes français qui sont explicites sur leur volonté d'utiliser un certain nombre d'outils pour régler les problèmes de la région. C'est les écrits de Robert Dequet face à, que j'ai évoqué l'autre soir, face à Clémenceau, mais un peu rapidement et d'une manière assez hachée. Ceci montre, si vous voulez, qu'il y a un point de départ avec quelque chose qui s'origine dans une relation duelle entre les deux rives de la Méditerranée, qui n'est pas encore résolue. Et les processus enclenchés il y a 80 ans n'ont pas reçu de réponse, à mon sens, nécessaire de la part des acteurs et des sociétés civiles, des acteurs politiques du monde arabo-islamique et des sociétés civiles, parce qu'elles ont été chahutées, bousculées dans une situation qui rend très difficile l'accession à l'esprit critique. Et nous avons dû nous débrouiller avec cette complexité des relations individuelles et collectives. Et si je peux par la suite apporter une contribution encore plus précise, je le ferai, mais je ne veux pas accaparer la parole. Je suis tout à fait disposé à développer, si vous voulez, cette dualité des responsabilités dans un destin qui aujourd'hui encore est en train de nous mettre à bas.
Moi, je vais parler en tant que civile. Je suis très marquée par la richesse de notre production artistique, littéraire et culturelle libanaise. Je suis très marquée par cette espèce d'explosion artistique de ces 5 dernières années. Et je suis marquée par une chose, c'est qu'on parle de politique, on parle d'art, mais moi je me retrouve en vous, que vous parliez cinéma, que vous parliez musique, que vous parliez mots. Je me retrouve à travers vous, mais je ne me retrouve pas du tout à travers ceux qui me dirigent aujourd'hui. Et je me demande comment les mots que vous dites, les sons que vous émettez, n'arrivent pas à leurs oreilles pour qu'enfin on cesse tout ça. Et qu'enfin on arrête de retomber dans ce cercle vicieux de déchirement et émotionnel comme aujourd'hui. Donc j'aimerais savoir quand est-ce que les mots, les sons et l'art arriveront aux oreilles de tous ceux qui nous entourent et comment faire porter haut votre art que vous en, seulement, en tout cas me concernant, vous pouvez me représenter. Voilà.
Je voudrais juste dire merci, mais dire que j'ai l'impression que ce n'est pas seulement ceux qui nous représentent, que c'est nous-mêmes aussi, que cette tragédie, si vous voulez, que vit ce pays depuis si longtemps, c'est quand même quelque chose que chaque Libanais porte en lui-même, mais en tout cas beaucoup de Libanais. Tant qu'on n'a pas résolu ça, y a tous les facteurs géopolitiques et tout ce qu'on voudra, mais tant qu'on n'a pas résolu ce rapport à l'autre, qu'on vit ici en France aussi de manière différente, qu'on peut vivre dans le monde entier. Il y a un durcissement de toute façon dans le monde entier terrible. Moi, je trouve qu'on vit une époque plombée d'une manière dans le rapport qu'on a à l'autre. Il y a une fermeture à la différence, il y a une peur de l'autre, etc. Et je pense que tant que ça n'est pas résolu, effectivement, peut-être que la manière de le résoudre est aussi culturelle. C'est-à-dire que par la diversité culturelle, c'est quelque chose qui peut permettre aussi de... au Liban, c'est autre chose. Au Liban, c'est autre chose, mais je crois que c'est pas seulement... Ils nous représentent et ils sont comme ça aussi parce que nous aussi, on est comme ça.
Oui, je m'identifie à la jeunesse libanaise qui se sent désillusionnée et fatiguée après tout ce qui s'est passé, en fait, après la guerre de juillet. Cette tristesse ou bien ce désespoir, c'est un sentiment omniprésent. On se sent triste. Personnellement, la tristesse ne me quitte pas depuis ce qu'on appelle communément la guerre de la rage. Et même si j'essaie de continuer mes activités en Europe, normalement, c'est douloureux de vivre et de revivre la guerre. En fait, on a l'impression que notre identité se dissocie de notre vraie identité et que des racines étranges veulent supplanter nos racines, nos vraies racines. Et c'est douloureux pour moi, en fait, comme auteur et comme poète de ne pouvoir situer mon identité que dans le conflit et, que dans les turbulences. Je n'arrive pas vraiment à situer mon identité dans une culture de paix. Et c'est là le défi, en fait. Mais je crois que Beyrouth et le Liban, c'est plus qu'une collection d'événements douloureux. En fait, je crois un avenir meilleur. Et je crois que écrire, c'est rester aussi. Et même si on ne va pas arriver à changer la classe politique aujourd'hui, mais l'écriture, c'est l'enracinement d'un message incontournable. C'est l'enracinement de la culture de la paix que j'espère régnera au Liban un de ces jours. Donc, comme Beyrouth a survécu à, tous ces épisodes de turbulence, je crois qu'elle résisterait encore cette fois. Que c'est à nous, en fait, de résister aussi. Malgré le désespoir, malgré l'illusion du changement qui a été détruit. Donc, mieux vaut résister. Merci.
Est-il une autre question, une autre remarque?
Oui, non, effectivement, pour revenir à la question de la mémoire, je pense effectivement ce qui manque, ce n'est pas uniquement la mémoire immédiate, c'est que nous n'avons même pas de livre d'histoire commun. Le paradoxe provient du fait que cette expérience fascinante du Liban est un véritable défi parce que nous sommes un pays de communauté et en même temps nous avons prétendu être un État-nation, ce qui fait que notre unité nationale vient en second lieu. Ça signifie que nous partons de ces communautés. C'est une expérience qui a été magnifique et fascinante à un niveau culturel, mais qui a été désastreuse à un niveau politique. Puisqu'à chaque fois, pour pouvoir adhérer à une entité nationale, il fallait passer par ces communautés. Donc j'estime que ces communautés véhiculant chacune son histoire, l'exemple libanais est effectivement nécessaire dans la mesure où il fait coexister dans un même espace des expériences différentes et qui ont pu paraître conflictuelles, comme un microcosme effectivement de ce qui a pu paraître dans les conflits à travers le monde et à travers l'histoire, mais en même temps, c'est très difficile à gérer politiquement parce que nous ne pouvons pas véritablement. Nous sommes en période permanente de cohabitation puisque le compromis politique doit toujours être ajusté à chaque fois et qu'il est toujours en prise à des crises, soit internes, soit régionales, soit internationales. Donc c'est quelque chose de structurel. Ce que je veux dire, c'est que autant l'expérience libanaise est fascinante culturellement, autant effectivement, elle a prouver ses limites au niveau politique. Il faut bien sûr toujours continuer à miser là-dessus, d'autant plus qu'avec la mondialisation, cette notion de pluralisme est quelque chose qui envahit le globe entier, mais que jusqu'à maintenant, cette rupture avec le politique provient, comme l'a dit tout à l'heure Yasmine, du fait que la structure elle-même est un tout petit peu, tout en portant un véritable espoir, et un tout petit peu biaisée.
Non, je suis d'accord que le Liban est proie à plusieurs contradictions et que c'est vrai que le problème du Liban, je ne sais pas si ça réside, c'est son pluralisme, si c'est son pluralisme et ses clivages intercommunautaires ou son existence dans une région très turbulente. Donc, Monsieur Houri a démontré l'autre fois, c'est que le Liban a été le panorama de plusieurs conflits régionaux. On ne sait plus si c'est la guerre de l'autre, la guerre des autres, comme Hassan Twaini dit, ou bien si c'est la guerre des Libanais. Mais ce qu'on remarque, effectivement, c'est que l'équilibre intercommunal du Liban dépend plus de la configuration externe que de la configuration interne. Et c'est cette vulnérabilité, en fait, ou bien ce que les politologue appelle la porosité des frontières libanaises, qui fait que le Liban dépend plus de l'évolution des événements extérieurs que de sa propre histoire et que de sa propre évolution. Et c'est ce qui m'inquiète, en fait. Comment sortir de cet état de vulnérabilité qui fait que les clivages extérieurs et intérieurs se superposent et mènent à une tragédie intérieure. Et je crois que c'est notre un défi de comprendre ou bien d'essayer de cerner quelles sont les causes intérieures qui rendent le Liban si vulnérable.
Bien, je pense qu'on va, on va s'arrêter sur ces paroles fortes qui justement disent quel était qui répondent d'une certaine façon au point de départ, au lancement de cette conversation sur la question de l'articulation entre un mode de vision et puis un existant qui est là. Et effectivement, toute la difficulté, elle est dans cette articulation-là. Et ça se passe à l'intérieur et ça se passe beaucoup, effectivement, dans l'intime, donc dans des zones dont il est finalement difficile de parler. Voilà, je vous remercie. Je vous signale que la question de la mémoire est abordée immédiatement après notre intervention, donc à 17h30, avec la projection d'un court-métrage et d'une table ronde consacrée à Beyrouth. Un court-métrage qui parle de justement de la question de la maison détruite et que l'on recherche en centre-ville. Voilà.